Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Quels sont les gestes de secours qui sauvent en cas d'une situation d'urgence? On en parle avec Dr Anissé Kipassa, expert en santé publique. Dr Anissé, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous les auditeurs de Capi Service.
Bienvenue dans cette émission Capi Service. On vous retrouve dans quelques instants. Des questions et préoccupations, appelez au 099 706 9941. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Alain Goy assure la mise en onde. Tati Mapoukou s'occupe de la coordination. Julie Fiesabungunda réalise cette émission. Micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Bien, quels sont les gestes de secours en cas d'une situation d'urgence? Vous savez, les accidents, les incidents, ça arrive, ça fait partie de notre quotidien. Alors, très souvent, lorsque, par exemple, un accident survient, vous voyez, les gens sont emportés par les émotions, c'est la panique, tout ça, et on ne sait pas intervenir. Et d'autres, malheureusement, c'est le cas de les dire, ils sortent leur téléphone pour commencer à filmer et à balancer les images sur les réseaux sociaux alors que la personne est en danger. Voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement de nos jours. Alors, et pourtant il y a moyen d'intervenir pour sauver la personne peut-être qui fait l'hémorragie ou qui a eu un accident, mais on peut intervenir rapidement pour sauver des vies. Alors, quels sont les gestes des premiers secours à apporter aux victimes, aux sinistrés, voilà, lorsqu'il y a un accident ou un incident, etc. On en parle avec vous, docteur Anissé Kipassa, vous êtes expert en santé publique. Alors, d'abord, la première question est de savoir, lorsqu'il y a un accident, par exemple, qui survient, il y a des victimes, il y a des sinistrés, quels sont les gestes qu'il faut poser à ce moment-là? Docteur Anissé Kipassa. Allô, docteur?
Même les accidents dans... Oui, je vous suis, Jody, est-ce que vous me suivez?
Oui, oui, on vous capte, oui, maintenant, allez-y.
Je disais que actuellement, avec les accidents de trafic routier et tous les problèmes que nous connaissons, des problèmes inattendus, des problèmes brutaux qui arrivent dans la vie quotidienne de communautés, ça entre dans les cadres des urgences. Et parmi les urgences, il y a ce que vous venez de dire, les accidents de trafic routier, même les accidents sur le fleuve. Et dès que ça intéresse soit une personne ou un groupe de personnes, les secouristes qui arrivent ou ceux qui sont avec eux sont à tout de suite interpellés pour poser le premier geste, les gestes qui sauvent. Mais généralement, je dis, nous avons un très sérieux problème dans notre pays. Il n'y a pas un système organisé de secours, de SAMU, comme on dit ailleurs, ou de SMUR, de systèmes organisés. Donc, les gens qui sont devant cette situation, confrontés à cette situation, sont appelés à poser des gestes qui sauvent. Mais alors, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils aient ne fût-ce qu'une information. Au moment où je parle, il se passe à Kikwit. En ce moment, je crois dans 2-3 jours, ça s'arrête. Une formation de formateurs avec l'équipe de la Croix-Rouge Belgique, ici à Kikwit. Pour le premier geste de secours. Imaginez, je dis, ça nous arrive tous les jours, pas seulement dans les cas des accidents. Rappelez-vous l'histoire de Papa Wemba. Et il y a un médecin, un professeur des cliniques universitaires, le professeur Benjamin Kabwe, qui a lancé une très belle initiative. Il est allé même dans les écoles primaires ou les écoles maternelles pour apprendre aux gens le premier geste de secours. En cas d'accident, généralement, ce sont des blessures, ce sont de situations d'urgence vitale, par exemple un arrêt cardio-respiratoire ou beaucoup d'autres problèmes de santé qui demandent des gestes appropriés, des gestes doivent sauver. Je prends ce que vous venez de dire. Mettons quelqu'un qui est sur la route. La première des choses, c'est la sécurité du secouriste, la sécurité de l'environnement, la sécurité de la victime. Alors que à Kinshasa et ailleurs, dès qu'il y a un accident de trafic routier, les curieux viennent tout autour. Ils n'ont même pas du respect pour la victime. Ils prennent leur téléphone. Ils se contentent de prendre des photos et de balancer. L'accident s'est passé à Kinshasa, alors qu'ils auraient dû être le premier à poser de gestes qui sauvent. Je parle de gestes qui sauvent. Par exemple, la réanimation. Le premier geste simple de la réanimation simple, la réanimation de base qui fait que quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui ne respire pas, qu'est-ce qu'il faut pour que cette personne respire? Qu'est-ce qu'il faut pour que son cœur continue à battre? Ce sont les gestes simples. J'avais demandé une extension par rapport aux urgences, je dis, au Congo et partout. Je parle du Congo, je parle de l'expérience que je vis ici à Kikwit. Les urgences, c'est tous les jours. En dehors des accidents, des trafics routiers, il y a un enfant qui se brûle. Je te donne la résilience négative de Kikwit et dans beaucoup d'autres provinces.
Voilà, un enfant qui se brûle, voilà, comment, qu'est-ce qu'il faut faire directement?
Ouais, quelqu'un, un enfant brûlé, on appelle la voisine pour venir mettre les urines. Ça, ce sont des attitudes, des comportements à risque. Quelqu'un qui est blessé, je prends ici à Kikwit. Quelqu'un qui est blessé, même le mécanicien, la première des choses, c'est mettre l'huile de frein. Ou bien, on met tout. Oula. C'est de la résilience négative. Donc, ça part non seulement des accidents de trafic routier. Dernièrement, il y a une fille qui a raté ses examens d'état. Elle prend de l'acide. C'est toxique, elle prend de l'acide. Et le voisin dit, prenez l'huile de palme pour contrebalancer l'acide. Non, ce n'est pas sérieux. On prend l'huile de palme, on prend du lait, on prend... Et quelqu'un qui a bu du pétrole. J'ai vu un enfant qui a bu du pétrole dans les quartiers... On le fait vomir. Or, ce sont des gestes très graves. Vous faites vomir quelqu'un qui a pris du pétrole. Le pétrole, par inhalation, passe dans le poumon et il meurt. Des accidents de trafic routier, c'est pas seulement la réanimation, c'est aussi les transports. Je dis, j'ai vu dans mon expérience à Kikwit, quelqu'un qui a eu un accident de trafic routier. Il a certainement eu une colonne cervicale cassée. Et qu'est-ce qu'on fait? On le met dans le coffre d'une voiture, on l'emmène en vitesse à l'hôpital, à la salle d'urgence où on était, et il vient, il vous dit tout bonnement, c'est pas sa faute. Il dit, voilà, j'ai sauvé quelqu'un. Non, tu ne l'as pas sauvé, au contraire, tu l'as achevé. Tu l'as tué. Quelqu'un qui a connu un accident, il a la colonne brisée. Et puis je dis, je ne sais pas si ça se passe dans d'autres provinces, je le crois. Vous n'avez jamais vu ici quelqu'un qui est fracturé? Et on les transporte sur une moto.
Oui.
Ici chez nous, on transporte même les cadavres sur les motos. Hein. Il faut le voir. Donc, nous avons un sérieux, sérieux problème d'organisation des services de santé d'urgence. Je dis, je prends Kikwit avec quelques millions d'habitants. Il n'y a pas seulement Kikwit, le Kwilu, le Grand Bandundu. J'imagine même à Kinshasa, il n'y a pas un numéro vert où vous pouvez appeler les secouristes pour venir, ceux qui sont vraiment bien formés. Il n'y a pas un numéro vert où on peut appeler.
Il y a la Croix-Rouge. Il y a la Croix-Rouge, docteur.
Papa, la Croix-Rouge est là. Maintenant que je vous parle, on est en train de former des secouristes de la Croix-Rouge comme formateurs. Mais même la Croix-Rouge, je suis non loin du projet Gavi Croix-Rouge. Je suis juste devant le bureau. Mais quelles sont les attributions de la Croix-Rouge? Aujourd'hui, je prends à Kinshasa ou à Kikwit.
Allô, docteur.
Il y a un accident de trafic routier. On appelle quelle Croix-Rouge? Le téléphone nous permet d'appeler les Croix-Rouges à Kenge, à Massimanimba, à Kikwit. On appelle les Croix-Rouges qui se trouvent à Kinshasa. Ça n'existe pas. Les Croix-Rouges sont des volontaires. Ils travaillent bien, ils sont là. Et encore... J'ai la mauvaise expérience que j'ai eue à Ebola. Nous avons perdu des secouristes de la Croix-Rouge. qui sont venus pour sauver, mais ils sont morts. Il n'y a pas un service vraiment organisé. Les footballeurs, je prends là au stade, si quelqu'un tombe comme Mac Foué, le joueur camerounais là qui est tombé en Europe, qui fait la réanimation? Les secouristes de Croix-Rouge étaient là. Ils étaient là juste pour le transport, pour soulever. Mais disons, sur nos routes, tout le jour, il y a des accidentés. Il y a des morts qu'on pouvait sauver avec des gestes simples de premier secours.
Docteur Anissé, puisque nous ne sommes pas... Docteur Anissé, oui. On entend souvent les gens dire, lorsque par exemple une personne perd connaissance, il faut l'étaler sur le dos et commencer à appuyer très fort au niveau du thorax.
Lorsque quelqu'un perd connaissance, je parle devant quelqu'un qui est tombé, c'est un inconscient. La première des choses, de la même façon quelqu'un qui convulse, la première des choses pour quelqu'un qui est formé, c'est de vérifier est-ce qu'il respire, est-ce que son cœur continue à battre. Si c'est quelqu'un qui est inconscient et son cœur continue à battre, je le mets dans ce qu'on appelle la position latérale de sécurité. La position latérale de sécurité, tout en dégageant son menton pour que cette personne... Et aussi, il y a des gestes simples, je regarde. Et...
Allô, docteur?
Les respiratoires sont obstrués. Oui, Jody.
Allez-y, oui. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord vérifier si la personne respire, et puis vérifier si les voies...
Dans la position de... Les voies respiratoires sont libres.
C'est ça.
Si les voies respiratoires sont libres, ce que vous avez dit là, si son cœur bat, je n'ai pas besoin de commencer à faire le massage externe. Ce que vous dites là, appuyer sur le thorax. Si je constate que il y a eu, ça c'est une urgence vitale. Son cœur a arrêté. Le cœur ne bat plus. Il ne respire plus. Je commence par la réanimation. Par le massage externe. J'appuie sur son thorax. 30 cycles avec 2 insufflations. Je fais la respiration bouche à bouche. Mais il faut qu'on vous apprenne ça. Il faut que vous le voyez. Ce sont des gestes. Même les policiers, je dis. Le premier d'ailleurs à qui on doit apprendre le premier geste de secours, ce sont les gens qui sont sur la route. Parce que dès qu'il y a un accident, le premier qui arrive sur le lieu d'accident, pas pour prendre des images, des téléphones ou quoi. Généralement, ce sont les policiers de la brigade routière. On doit leur apprendre les gestes simples qui sauvent. Viennent ensuite dans les écoles, partout où nous vivons, parce que ça peut arriver chez votre voisin. Vous êtes assis avec quelqu'un, il vous dit « je me sens pas bien, je respire pas bien ». Vous le mettez dans une position confortable. Et ensuite, vous vérifiez, est-ce qu'il respire? Est-ce que son cœur bat? Si son cœur bat, vous n'avez pas besoin de commencer à masser encore ce cœur-là. Si son cœur ne bat pas, vous pouvez commencer à masser. Et ça, il faut qu'on vous l'apprenne.
Bien, on va accueillir un premier auditeur dans cette émission. Il s'agit d'Elvis Kawoya de Kinshasa. Bonjour Elvis.
Bonjour, monsieur Gélie.
Bien, nous parlons des gestes de secours, les gestes qui sauvent en cas d'urgence, en cas de situation d'urgence. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ouais, je pense que je vous ai bien suivi et aussi j'ai suivi le docteur. Et vous avez soulevé les cas des gens de Croix-Rouge. Il vous a bien répondu. Les Croix-Rouge, c'est un service volontaire. Ils font du service volontaire. Nous sommes ici au marché. Ça arrive des fois où vous avez un cas d'urgence où vous pouvez même faire appel au service du Croix-Rouge et qui ne sont pas. Peut-être le vidéo aussi a aussi dit qu'est-ce qu'il y a un numéro vert où on peut directement appeler en cas d'urgence. À l'exemple, hier quand j'ai rentré à la maison, à l'arrêt, j'ai trouvé quelqu'un qui était tombé de l'épilepsie, alors que tout le monde le regarde. Alors quels sont les... Vraiment, c'était d'une émission, vraiment, je ne sais pas si peut-être je connaissais peut-être ça à l'avance, je pouvais directement aider cette personne-là. Et il s'est blessé. Maintenant, comment on pouvait d'abord, le premier geste qu'on devait poser.
Oui, Elvis, la personne, oui. Quand vous avez vu que la personne est tombée, elle est épileptique, comment vous avez réagi? Qu'est-ce que vous avez fait à l'immédiat?
Ah, personnellement, je voulais l'aider. Peut-être, je voulais le redresser, peut-être parce qu'il est tombé. la figure est contre la terre. Avec le goudron ici, ça peut lui faire blesser. Alors quand on a voulu les toucher, on a dit non, avec les salives qui sortent de sa bouche, ça peut vous contaminer encore de l'épileptique.
Et vous
n'avez pas alors tout quand on a...
Oui, et personne ne l'a touché.
Oui, et alors les gens commençaient déjà à les filmer.
À les filmer.
C'était peut-être des gestes, les premiers gestes qu'on devait poser, ou peut-être on avait un numéro vert. Même le numéro vert peut être donné. Mais est-ce qu'avec les embouteillages que nous avons ici, la personne peut même mourir? Parce qu'ici, par exemple, si vous prenez quelqu'un où il y a un cas d'urgence qui est peut-être au niveau du quartier 1, le numéro vert qui est donné se trouve peut-être à Limité, 12e ou à Gombe. Vous appelez pour une personne qui est là-bas.
Elvis, et finalement, oui, vous avez abandonné cette personne sur la route sans secours.
Alors, comment on a fait? On avait personne. Il n'y a pas les Croix-Rouges. Il n'y a pas déjà. On est attendu seulement les gens qui ont filmé. On a filmé ce qu'ils ont fait. On fait à tel point qu'il est comme ça. C'est parce qu'après 30 minutes ou 40 minutes comme ça, il a commencé à se redresser. Il commençait à lever les salités parce qu'il s'est retrouvé. Maintenant, mais si on avait peut-être, mais le grave quoi? C'est que je n'ai pas aimé comment il s'est fait blesser parce qu'il bougeait les pieds, il bougeait la tête. Alors, les gestes qu'on devait poser comme en premier lieu, cette fois attendre les gens qui viennent ou peut-être les services de secours, qu'est-ce qu'on pouvait d'abord faire en cas d'une personne épileptique qui tombe à vos yeux, qu'est-ce que nous devrions d'abord faire? Et d'aider, je voulais aussi dire que l'initiative qu'il a dit, c'est bien, former des gens, peut-être des locaux, hein, dans des communes, dans des endroits publics, des personnes qui connaissent peut-être certains gestes, même deux ou trois. Comme il l'a dit, peut-être à la maison, vous avez une personne qui dit qu'il ne respire pas bien. Il faut faire ça, il faut faire ça. Même ici au marché, il y a certaines personnes même qui meurent de l'étouffement. Si vous vous rendez compte, même avec les affaires du stade et tout ça, vous vous rendez compte que la majorité des gens meurent par l'étouffement. Et il n'y a personne qui est là peut-être pour faire les premiers gestes, c'est-à-dire comment l'aider à examiner le niveau de la personne. Est-ce que c'est un cas urgent? Ou si peut-être les Croix-Rouges qui est un service volontaire, est-ce qu'il n'est-il pas possible de former certains arrêts, dans certains...
Oui, oui, merci beaucoup Elvis, oui. On a compris votre préoccupation. Docteur Anissi.
Merci Jody, merci pour Elvis. Je suis vraiment ravi d'entendre Elvis, parce que le grand problème que nous avons, j'imagine Elvis est Kinshasa, Elvis n'est pas à l'Équateur. À l'Équateur, la coutume a consacré un comportement négatif. Quand il y a si vous êtes devant un épileptique, à l'Équateur, on dit ne touchez pas, laissez-les convulser, parce que si vous le touchez et qu'il dégage un peu, vous risquez de tomber malade. C'est un comportement négatif. La première des choses, si vous êtes devant quelqu'un qui convulse, un épileptique connu, regardez d'abord sa sécurité. Il est à, qu'est-ce qu'il y a autour de lui? Si c'est quelqu'un qui est autour du feu, il faut l'éloigner du feu. Et si c'est quelqu'un qui est autour du feu, il faut l'éloigner du feu. Si c'est quelqu'un qui est, d'ailleurs, l'épileptique, il y a ce qu'on appelle en anglais les watch pour l'épileptique. On les laisse jamais seuls aller à la rivière, par exemple. Donc l'épileptique, il faut pas les laisser à côté du feu, à côté d'un endroit très dangereux dès qu'ils commencent à convulser. Mais une fois qu'ils commencent à convulser, l'épileptique, vous le regardez, vous l'observez, parce que c'est une crise. Si c'est une crise grand mal où il convulse tous les membres, ça va passer. Mais de quelle façon? Si vous avez ce qu'on appelle les morts, si vous vous rendez compte qu'il est en train de se mordre la langue, il faut protéger sa langue. Cherchez quelque chose d'une petite épaisseur, mettez entre les dents et sa langue pour qu'il ne se morde pas la langue, parce qu'autrement il va se blesser. Donc ça c'est pour lui, et dès que c'est terminé, vous pouvez l'acheminer à l'hôpital, vous pouvez l'amener à l'hôpital le plus proche. Donc ça c'est pour l'épileptique, mais il faut...
Allô docteur?
Allô? Faire ce qui se passe. Oui, je dis. Vous me suivez?
Oui, oui, allez-y.
J'ai dit que, je me répète, la première des choses pour un épileptique, regardez son environnement. S'il est à côté du feu, éloignez-le, parce que l'épileptique à côté du feu, c'est dangereux. L'épileptique, on ne les laisse jamais aller seul à la rivière. L'épileptique, il faut éviter absolument qu'il soit dans un endroit malsain qui peut causer du tort à cet épileptique. Quand il convulse, si c'est l'épilepsie grand mal, il y a des gens qui ont l'épilepsie grand mal, ils convulsent tout le corps. Celui-là, regardez bien, s'il est en train de se mordre la langue, il faut chercher une petite épaisseur, le mort, pour lui mettre entre les dents et la langue, pour que il continue pas à se blesser du côté de la langue. Mais généralement, les crises ne durent pas. Dès que ça se termine, vous l'acheminez à l'hôpital le plus proche. Mais évitez de faire ce qui se passe à l'Équateur, où la coutume a consacré certaines croyances que si quelqu'un est épileptique, vous le touchez, il dégage un peu, vous attrapez sa maladie.
Vous attrapez la maladie.
Ça, c'est vraiment... C'est mauvais. Non, c'est une croyance fausse. C'est une croyance négative. Donc, il faut pas croire à ça. Il faut le secourir. Observez-le. Si c'est mort la langue, mettez un mort qu'on appelle, quelque chose pour protéger la langue. Et ensuite, dès que la crise se termine, amenez-les au centre le plus proche.
Voilà. Et pour le cas du monsieur, ils l'ont laissé comme ça, convulsé. Ils étaient en train de prendre des photos et après 30 minutes, la personne s'est relevée.
D'elle-même. C'est mauvais, je dis. C'est mauvais. C'est condamnable. C'est mauvais. Même si vous ne pouvez pas l'aider, vous n'avez pas besoin de faire de lui un objet de réseaux sociaux et commencer à prendre des photos. Je crois, je suis sûr, si Maître Omar est là, il nous dira certainement que c'est contre la loi et on peut vous poursuivre. Ce n'est pas gentil. Quelqu'un qui est en détresse, qui a besoin de votre aide, vous contentez à prendre les photos. D'ailleurs, je donne cours de premiers gestes de secours à l'université ici. L'une des premières choses qu'on conseille aux gens, dès qu'il y a une urgence quelque part, il faut l'éloigner des curieux. Quelqu'un, vous avez dit tout à l'heure là, qui respire pas bien. Et les curieux viennent, ils l'entourent. À Kinshasa, c'est encore plus grave. Il y en a qui viennent pour mettre le main dans ses poches, pour chercher qu'est-ce qu'il a.
Oui.
Soi-disant qu'ils veulent l'aider. Non, non seulement ils prennent des photos, ils viennent mettre le main dans les poches de quelqu'un.
Voilà, pour prendre soit de l'argent ou les téléphones, voilà, c'est des choses qui arrivent souvent dans la société. Allô, docteur?
Oui, je vous suis, Jody.
Oui. Vous étiez en train de parler des gens qui viennent autour du sinistré pour mettre les mains dans les poches pour voler l'argent ou les téléphones.
Exact. Non seulement ils viennent chercher les téléphones, ils viennent chercher ce qu'il a. Et les autres prennent des photos et au lieu de l'assister. Donc c'est un comportement qui n'est pas correct. Je disais que si Maître Omar était là, il nous suivait certainement. Il va nous dire ce que la loi dit à ces propos-là.
Bien, on va accueillir un autre auditeur dans cette émission. Il s'agit nous parlons aujourd'hui de gestes de secours en cas de comment assister une personne, voilà, qui se trouve dans une situation d'urgence. Elias Issamalo, vous êtes à Mbandaka, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à votre invité et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question?
Ouais, Jody, je commence d'abord à rectifier. Je suis à Kinshasa. C'est Elias Osamalo. Je suis à Kinshasa.
Elias Osamalo.
Alors,
d'accord. Allez-y.
Voilà. Je crois que la thématique est très importante. Vraiment, c'est très important parce que c'est vraiment important. Par exemple, on dit ceci: l'intervention d'un secouriste est très vitale lors d'un accident. Ou lors d'une circonstance quelconque. C'est-à-dire, si on a des secouristes un peu partout, à cas d'un accident ou d'une situation quelconque, ces derniers vont nous aider à porter leur secours. Alors, dans mon pays, le problème, c'est que nous avons un peu des attendements ou encore des manières auxquelles nous sommes habitués de faire nos histoires, qu'on ne veut pas aller apprendre. Moi, je suis secouriste de la Croix-Rouge, je suis formé à la Croix-Rouge, et c'est une formation. On dit que le secourisme est une science ou un art qui apprend aux volontaires les techniques et méthodes à appliquer pour venir en aide aux victimes d'accidents ou malades. Donc, vous comprenez que c'est toute une science. Ce n'est pas quelque chose que tu viendras sans pour autant être formé et vous venez toucher. Et l'objectif, c'est que vous devez poser les gestes qui sauvent. Les gestes qui sauvent.
Oui, quelle est la question que vous adressez à l'invité?
Les gestes qui sauvent ont leur utilité, c'est de ne pas aggraver la situation de la victime. Et pour arriver à faire cela, c'est que vous devez d'abord être formé.
Oui, c'est ce que l'invité a dit tout à l'heure. Alors, quelle est la question que vous adressez à Dr Anissé par rapport à cette question?
Ouais, par rapport à cette question, c'est que il faut sensibiliser la communauté, et c'est ce que fait la Croix-Rouge, sensibiliser la communauté de venir apprendre, de comprendre c'est quoi le sécourisme, parce que c'est très important. Dans chaque société ou dans chaque famille, on a besoin des sécuristes. Donc, c'est ce que je pourrais dire, monsieur le journaliste.
Merci. Docteur Anissé Kipassa, vous avez la parole.
Merci pour notre ami sécuriste de Kinshasa. On ne saura pas mettre tout le monde à aller suivre de cours de sécurisme. Mais ici, nous parlons de premiers gestes, de gestes simples. Par exemple, notre ami a très bien parlé. C'est ça le sécurisme. Mais ici, là-dedans, dans le sécurisme, nous prenons le premier geste simple. J'ai parlé pas seulement des accidents de trafic routier. Imaginez-vous quelqu'un qui saigne du nez. Ça arrive souvent. Vous êtes avec un enfant ou un adulte, il a l'habitude de saigner du nez. Dès qu'il est en train de saigner, il y a des gens qui paniquent, ils s'éloignent. Alors qu'il suffit simplement de prendre une petite compression avec un mouchoir au niveau de la base du nez et le mettre dans une position légèrement inclinée devant, il va cesser, ça va s'arrêter. Et dès qu'il ne saigne plus du nez, on peut l'amener maintenant à l'hôpital. Imaginez un enfant à l'école. Il y a une situation à l'école. Il y a, par exemple, la fumée. Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants dans un endroit tout autour où il y a la fumée et un incendie? Vous allez pour sauver ces enfants ou pour sauver ces gens-là. Vous n'entrez pas là où il y a la fumée. Commencez d'abord par les portes là où ils se trouvent, par casser ou ouvrir les portes pour que ce soit aéré. C'est autant pour la fumée, c'est autant pour la libération de gaz toxiques. Et j'ai pris l'exemple tout à l'heure là dans les urgences de quelqu'un qui a pris par inadvertance l'acide. Au lieu la résilience positive, le comportement positif, c'est de ne pas lui donner du lait. Mais les gens, que ce soit à Kikwit, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Lubumbashi, qui est-ce que la population écoute devant les urgences? Ici chez nous à Kikwit, les meilleurs médecins que les gens écoutent s'appellent Docteur Ndé. Docteur Ndé, Botubaka. Ça signifie à Kinshasa aussi, Docteur Balobaki à Lubumbashi, mais ça aussi. Mm. Balobaki, Balobaka, Boye. Mm. Les gens n'écoutent pas les secouristes. Il a parlé de la sensibilisation, notre ami de Kinshasa. Mais est-ce que notre population est prête à écouter les sensibilisateurs de la Croix-Rouge, les médecins, les infirmiers qui travaillent jour et nuit pour eux? Mais à Kikwit, les gens écoutent plutôt le Docteur Ndé. Hein? Qu'est-ce qu'on a dit?
Balobaka, il faut qu'on s'alaboye.
Tu leur demandes pourquoi vous mettez les urines sur la brûlure d'un enfant.
Oui.
Ah, tout ça la gandeng wana balobaka et ça lisaka. Mais pourquoi vous donnez le miel, le passe partout? Le miel, je comprends. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui parlent même de l'aloe vera sur des brûlures. J'ai parlé et j'ai échangé avec mes amis là, les Belges qui sont arrivés, les formateurs. Ils disent ok, laissez les gens mettre le miel, mais on met tout. Et quelqu'un qui est accidenté sur une moto, sur un vélo, dans un véhicule, les gens accourent, ils prennent des photos pendant que quelqu'un est en train de saigner. Personne pour aller voir qui respire, qui ne respire pas. Mais puisque nous n'avons pas de numéro vert, ce que nous devons faire, il faut commencer par les chauffeurs et les boys chauffeurs, leur apprendre les simples gestes qui sauvent avant d'appeler ou d'amener à l'hôpital. Et d'ailleurs, je dis, les urgences vitales se soignent à l'endroit de l'accident.
Oui.
Quand vous avez quelqu'un
qui fait par exemple le cas de... quelqu'un qui est blessé, il y a l'hémorragie, le sang est en train de couler à flot. Comment faire à ce moment-là rapidement pour arrêter l'écoulement?
Je voudrais situer où se trouve la blessure. Si c'est une hémorragie externe, quelqu'un qui a reçu, par exemple, il était sur la moto, il est tombé, il est gravement blessé. Ou c'est sur la tête. La première des choses, si j'arrive, c'est demander s'il est conscient, lui demander de faire lui-même la compression avec un mouchoir propre pour comprimer. Le fait déjà de comprimer en attendant que les autres soins arrivent,
oui,
diminue le risque d'hémorragie. Et au besoin, comme on le fait pour le cas de morsure de serpent, on peut appliquer un garrot par rapport à l'endroit de la blessure. Bien sûr, ça s'apprend. Mais la compression, je prends deux jeunes gens qui étaient en train de se battre, il y a un qui reçoit un coup de tête, il saigne sur la tête. Rien que la compression, si on a un sachet de glace ou quelque chose, rien que la compression diminue le risque d'hémorragie jusqu'à l'amener à être anémié avant que l'infirmier ou le médecin arrive. Donc, je situe d'abord où se trouve. Et ensuite, j'ai commencé par dire la sécurité du secouriste, la sécurité de la victime. Ça signifie la personne qui vient secourir, sa propre sécurité, ça signifie qu'il faut qu'il mette les gants. J'ai demandé aux étudiants à qui je donne cours d'avoir toujours des gants en poche. Parce que je prends maintenant avec les monkeypox. Vous venez, vous avez des très bonnes intentions pour secourir quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui saigne, quelqu'un qui est inconscient. Vous les touchez à main libre, c'est de l'insécurité pour les secouristes, c'est de l'insécurité pour l'environnement, pour ceux qui sont tout autour.
Bien, on va accueillir deux auditeurs, Malonga de Bandundouville et Tonton Jaco de Kinshasa. Malonga, bonjour.
Oh, oui, bonjour Jody, bonjour à notre invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au geste des secours en cas d'urgence, des situations d'urgence?
Merci beaucoup. Je n'ai rien encore à dire, puisque en tout cas l'invité a dit tout. Mais par conséquent, de tout ce qu'il vient de dire, si par exemple, comme à Kinshasa, là où nous sommes là, vous êtes, si quelqu'un est blessé par les colonnes, vous vous sortez brusquement, et puis vous voulez sauver l'autre. Vous aussi, vous tombez dans le même embuscade. Et si vous faites délivrer, alors le responsable de celui qui a été gravement blessé, s'il vous raconte là-bas, il y a d'autres qui vous accusent aussi que vous étiez parmi ceux qui ont blessé le leur. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour le bienfait? Vous êtes tombé encore victime. Vous ratez d'abord d'être maltraité par celui qui a maltraité l'autre que vous voulez sauver. La famille aussi de celui qui a été maltraité vient aussi vous accuser si vous étiez le complice. Ça aussi, ça bouscule ce courage vraiment de renforcer ce secours-là. Alors, qu'est-ce que l'invité peut aider la société pour conseiller? Et il y a d'autres qui ne veulent plus encore sortir à sauver l'autre pour échapper à cela. Échapper à être victime comme l'autre et échapper aussi à être accusé d'être aussi d'être aussi traître de celui qui a aussi malfaisé l'autre. Tout ça, en tout cas, est-ce que l'invité peut avoir quelques mots ou bien quelques conseils seulement à faire? Mais sinon, tout ce que l'invité a dit, et vous aussi, Jody, en tout cas, c'est ce qu'il faut faire dans la société. Puisque la non-assistance à personne en danger, c'est une infraction. Et l'humanisme nous invite vraiment de se secourir. Mais c'est la société encore qui traduit cette façon de ne pas être vraiment convenable dans la société. Merci beaucoup, Jody. C'est ce que j'avais à ajouter.
Merci. Tonton Jaco, vous êtes de nouveau en ligne. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux gestes des secours, aux gestes qui sauvent en cas de situation d'urgence?
Voilà. Bonjour. Rebonjour, Jody, Daniel. Et bonjour à notre invité, le docteur Anissé. Je pense qu'aujourd'hui, j'interviens beaucoup parce que peut-être que les différents sujets depuis ce matin sont des sujets qui m'intéressent personnellement. Mmh. Alors, j'avais plutôt une question à poser au docteur Anissé parce que, à l'entendre parler, je me rends compte que oui, il faut poser des bons gestes, mais seulement ces bons gestes-là sont nombreux et en plus, il faut vraiment les connaître, il faut les apprendre. Mmh. Et aussi, s'il faut les apprendre, je pense que ce n'est pas seulement au niveau de nos amis, nos secouristes professionnels comme les amis de la Croix-Rouge et tout ça, mais je pense que toute la population, moi y compris, je dois connaître aussi ces premiers gestes, les gestes qui sauvent justement pour arriver aussi à secourir certaines personnes qui se retrouvent dans des cas d'accident autour de moi. Parce que même puisque nous parlons d'accidents, eh ben là, je me rends compte qu'il n'y a pas que les accidents de circulation tels que nous évoquons là.
Oui.
Il n'y a pas que les accidents maladies comme les cas d'épilepsie, les cas de crise cardiaque.
Il y a plusieurs situations d'urgence.
Mais il y a aussi, oui, il y a beaucoup de situations d'urgence. Il y a des incendies. Je sais pas. Vous avez votre bébé qui a avalé une bile. Il est en train de suffoquer. Il étouffe. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais non, ma question est celle de savoir. Et là, je la pose au docteur Anissé. Mmh. Est-ce que à leur niveau, ils ont prévu déjà un moyen pour arriver à vulgariser, à sensibiliser, à apprendre à la population, à part les professionnels, hein, mais à nous apprendre à nous tous les bons gestes à poser en cas de problème. Et puis, puisque il est à l'antenne à l'émission, je sais que les bons gestes, il y en a tout plein, mais si il peut, par rapport à quelques cas, nous donner comme ça aujourd'hui d'entrée de jeu quelques petits gestes, il a déjà commencé à le faire d'ailleurs, mais ajouter encore quelques petits gestes comme ça, nous le gardons quand même déjà en mémoire avant que justement le système de vulgarisation et de sensibilisation puisse être lancé. Voilà.
Merci tonton Jaco. Docteur Anissé qui passe.
Docteur Anissé. Merci Judy. Oui. Je dis, est-ce que vous me suivez?
Oui, on vous entend, docteur. Allez-y.
Oui, je commençais par notre ami là qui a dit blessé par les Kuluna et il peut pas aller au secours de quelqu'un pour deux raisons. D'abord, il est en insécurité et de deux, il y a la famille de la victime qui peut le confondre à ceux qui ont causé du tort à cette personne. Je crois, j'ai parlé de ceci. Pour tous secouristes, il y a deux choses, il y a deux ou trois choses. L'une des premières choses, c'est la sécurité du secouriste. D'abord, la sécurité, parce que si vous allez sauver quelqu'un là où il y a des Kuluna, vous risquez d'être pris aussi comme victime par les Kuluna. Mais si les Kuluna s'éloignent, ils sont partis, il faut pas hésiter un instant d'aller sauver quelqu'un parce que la famille risque de, si vous pouvez le faire, de mal vous juger. Au contraire, allez-y, n'hésitez pas, c'est une bonne attitude. Je remercie sincèrement tonton Jaco, il a touché le vif de notre problème. Les gestes qui sauvent, il faut le connaître. Les gestes qui sauvent, il faut les apprendre. Les gestes qui sauvent, c'est pas l'apanage uniquement des professionnels de santé, des secouristes, des policiers. Mais c'est des gestes, c'est l'apanage de tout le monde, comme il a dit. Il a pris un très bel exemple. Il a parlé de corps étrangers. Je dis, regardez surtout, attention avec les enfants. Ça, ce sont les urgences extrêmes. Attention avec les enfants qui prennent de la boisson, les boissons gazeuses, les bouchons. Les enfants avalent facilement. Ils prennent. J'ai eu un enfant qui venait de Kinshasa, qui a avalé le bouchon et ça s'est pris au niveau de la gorge, au niveau de l'oropharynx. Mais nous, ce que nous disons, je voulais dire aussi apaiser notre ami Jaco, que nous avons commencé depuis tout le temps que nous sommes là des médecins de santé publique, nous passons notre temps à l'éducation et l'information de la communauté par rapport à ce qu'il faut faire devant des urgences. Cette famille-là, la maman a pensé qu'elle faisait bien en cherchant à extraire le bouchon qui était passé dans la gorge. Au contraire, il n'a fait qu'enfoncer. J'ai reçu encore 4 ou 5 autres enfants qui ont pris attention avec les enfants, des grains de maïs, des grains d'arachide dans les narines. Attention, attention, il n'appartient pas à quiconque de pousser. L'attitude correcte en ce moment-là, quand il y a un corps étranger, que ce soit dans les voies respiratoires, que ce soit par la comme j'ai dit là, par l'oropharynx, l'enfant, il fallait voir l'enfant saigner, c'était la panique, parce que c'est la maman qui a aggravé avec le papa qui était là dans le véhicule, qui a aggravé, qui poussait les bouchons à l'idée de retirer. C'est comme l'a dit notre ami là, le sécuriste d'Akin. Le premier geste, c'est pour éviter l'aggravation de la situation. Je prends le brûlure Jaco. Et ça va vous paraître banal. Le premier geste en cas de brûlure, mettez de l'eau. L'eau courante. Et si vous avez des glaçons, mettez des glaçons. Le premier geste simple, c'est de l'eau. Ça vous demande pas d'aller chercher des compresses, je ne sais pas quoi. De l'eau. L'eau, et surtout de l'eau froide, de l'eau glacée, ça va diminuer l'ampleur de la gravité de la brûlure. Évidemment, nous parlons de brûlure simple. Mais quelqu'un qui a un brûlure de deuxième, troisième degré, là, ça demande autre chose.
Oui.
Je prends quelqu'un qui a l'épistaxis, le saignement du nez. Jaco, ça arrive tous les jours à côté de vous. Ne paniquez pas. Prenez un mouchoir propre, comprimé au niveau de la base du nez. Si on vous le montre, vous n'oublierez jamais. Mettez-le la tête légèrement penchée devant. Mais généralement, qu'est-ce que les gens font? Quelqu'un qui saigne, on le met la tête en arrière pour qu'il avale tout le sang qu'il est en train de qui passe par les nez là. Ça, ce sont des gestes simples. Jaco, c'est beaucoup. Je prends quelqu'un qui est mordu par les abeilles. Oui, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Avec les abeilles, quelqu'un qui est mordu avec les abeilles, on commence à lui jeter de l'eau dessus. Non! Le problème des abeilles, c'est ce qu'on appelle les dards. Quand les dards entrent, l'abeille t'a piqué, ça fait très mal. Cherchez à extraire, même avec de l'eau chaude, une compresse chaude, à extraire le dard que l'abeille a mis là-dedans. Je prends quelqu'un qui est mordu par un serpent, Jaco. Les serpents, que ce soit les serpents ou, j'ai parlé des abeilles ou des guêpes. Le serpent, surtout, vous êtes en forêt, si c'est un serpent venimeux, mettez le garrot par rapport rapidement. Laissez saigner la plaie, mettez le garrot et ne traînez pas, amenez-le vers l'hôpital le plus proche. S'ils ont la pierre noire ou d'autres choses, ils vont l'appliquer. Mais Jaco, le problème c'est le comportement, et j'ai appelé ici la résilience négative. Un enfant brûlé, on appelle la voisine pour venir faire pipi dessus. Ça, ce n'est pas correct, ce n'est pas sérieux. Une fille intoxiquée, elle a pris trop de substances acides. On commence par lui donner le lait. On commence par lui donner l'huile de palme.
Le miel.
Quand quelqu'un a pris de l'acide, Jaco, vous lui donnez l'huile de palme, vous faites le savon dans son estomac. C'est la saponification. Donc, quelqu'un qui a pris par inadvertance ou volontairement il a pris de l'acide, ne lui donnez pas de l'huile de palme. Alors qu'ici, l'attitude, je suis sûr, pas seulement à Kikwit, même à Kinshasa. Pessa et Mafutambi, là. Ça va sortir.
Ton Pessa
quelqu'un
et
qui
miel.
A pris du pétrole.
Ah, mais la miel.
Miel. Mm. Oui, le miel, j'ai discuté longuement avec Madame Georgette, ma grande sœur, là. Madame la pharmacienne Georgette Biebiesongo.
Oui.
Dans une émission sur Okapi. Elle a dit, attention, les gens pensent que le miel a des vertus anti-poison partout. Mais il faut faire très attention. Actuellement, je dis, il y a beaucoup. Mais le plus important, c'est de ne pas faire des gestes qui peuvent aggraver la situation. Il y a un accidenté sur la route. Ne vous empressez pas à prendre des photos. Ne fût-ce que regarder et toucher s'il respire pas, avant que l'intervention n'arrive. Vous vous dites, je voudrais le sauver. Vous le prenez, vous le mettez recroquevillé dans le coffre de la voiture. Non, ça c'est une attitude négative. Autant le laisser... pour que, en attendant l'équipe des urgences, mais sauf s'il saigne et il est inconscient, alors c'est vous qui allez faire la compression de l'endroit où il saigne. C'est à vous de le faire. Quelqu'un, j'ai cité beaucoup de petits cas là. Quelqu'un qui est électrocuté. Je parle même pas de l'électrocution, je parle de l'électronisation. L'électrocution, c'est déjà beaucoup plus grave. Je prends le cas de Kikwit ici. Nous sommes en fait, parce que bientôt on va avoir Kakobola, mais les gens du projet Kakobola sont très prudents. Ils ont mis sur tout le panneau « danger de mort ». Ça signifie que bientôt, quand le courant va être lancé, les gens vont abuser la façon dont on utilise le courant à la maison. Il y aura beaucoup d'accidents, il y aura beaucoup de cas d'urgence. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je suis en train d'apprendre aux gens, attention, attention, vous avez de l'eau en main, n'allez pas toucher le fibre de courant. Vous avez de l'eau, quelqu'un qui est électronisé, pas électrocuté. Quelqu'un qui est électronisé, n'allez pas le toucher, vous avez les mains humides. Vous risquez d'être à deux. Et commencez par éteindre. Jaco, si ça arrive à la maison, commencez par couper la source de production de courant. Ça, ce sont des cas que nous avons tous les jours. Vous avez parlé des cas d'incendie. S'il y a de l'incendie, la première des choses, c'est, ils sont dans une maison, casser les vitres, casser pour qu'il y ait de l'air qui sorte. Parce que les gens meurent par étouffement. L'accident qu'il y a eu au stade, là, les gens, effectivement, il y a quelqu'un qui a dit, ils sont morts par étouffement.
Oui.
Donc, ceux-là, heureusement que Vijana n'était pas très loin de là. Mais avant de l'amener à Vijana, les gens qui étaient formés, ils allaient commencer par souffler dans leurs narines et, pour voir s'ils peuvent petit à petit récupérer et faire des massages externes. Donc, il y a beaucoup de situations tous les jours. Jaco, si quelqu'un vous dit « Nazoka bien, je me sens pas bien », commencez par le mettre dans une position de sécurité. Faites-le asseoir dans une position où il est à l'aise. Quelqu'un qui étouffe parce qu'il a une cravate.
Qui a des vertiges, par exemple.
Faites-le asseoir d'abord. Ne le laissez pas continuer. Quelqu'un qui a des vertiges, faites-le asseoir. Évidemment, vous n'aurez pas à tensiomètre en ce moment-là. Ça peut être un problème d'hypertension. Ça peut être il n'a pas mangé l'hypoglycémie. Faites-le asseoir d'abord et demandez-lui exactement ce qu'il ressent. Jaco, je prends quelqu'un qui étouffe parce qu'il a une cravate. Commencez par enlever la cravate ou la chemise. Il porte une veste de taille, comme on dit là. Il y a des gestes simples. Le simple fait d'ouvrir, d'enlever la cravate, et vous pouvez sauver quelqu'un. Au lieu d'attendre que les gens prennent, je sais que Jaco ne le fera pas, de prendre des photos, mais c'est, rassurez-vous Jaco, nous vulgarisons tous les jours. Pratiquement chaque semaine, nous sommes à la radio pour dire aux gens, en cas d'urgence, que ce soit sur la chaussée, le trafic routier, en cas d'urgence à côté de vous, ne faites pas ceci, faites tel geste en attendant que l'intervention arrive. Parce que si c'est une urgence vitale, il faut agir sur place dans les 5 minutes qui comptent, parce que chaque seconde compte.
Chaque seconde compte. On va accueillir Thomas de Bounia. Bonjour Thomas.
Bonjour monsieur Jody et bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de la radio.
J'ai quelques
questions là à poser à l'invité. Quels sont les gestes premiers on peut secourir ou on peut effectuer pour une personne, par exemple, souffrant de l'arrêt cardiaque? Quels sont les gestes les premiers qu'on peut suivre ou évaluer la personne qui souffre, par exemple, qui a les problèmes des arrêts cardiaques? Quels sont les gestes qu'on peut apporter à cette personne? La deuxième question, j'ai suivi l'invité en train de parler, plus je vois les cas d'accident, parce qu'il y a beaucoup d'urgence sur ces plans-là. Comment reconnaître les signes? Allô?
Oui, on vous écoute, Thomas. Allô, Thomas?
D'accord. Je disais, oui, vous m'attendez, je pense que je suis en direct. Je disais, quels sont les gestes qu'on doit effectuer en cas de saignement abondant? Parce que plus tard ici, même à Bougna, il y a des accidents de circulation qui peuvent venir. Par exemple, en cas de saignement abondant, quels sont les gestes qu'on peut utiliser pour ces cas-là de saignement abondant? Par exemple, il y a perte de sang, énormément de sang. La troisième question, c'est quelles sont les étapes à suivre pour le traitement des blurures? Les blurures, par exemple, il peut y avoir que vous avez connu l'incendie dans la maison. Pour ces cas-là, comment est-ce qu'on peut traiter ça immédiatement? Si une personne arrivait quand même à être brûlé, quels sont les gestes qu'on peut apporter à cette personne-là. Et pour terminer, quels sont les gestes qu'on peut secourir en apportant à une crise? Parce que plusieurs fois, on parle des problèmes de réanimation. Pour séparer personne, là, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'une personne arrive à s'évanouir ou il perd connaissance, là? Quels sont les gestes qu'on peut, ou qu'est-ce qu'on doit faire pour cette personne?
D'accord. Ça, merci. Merci beaucoup. Docteur Anissé Kipasa.
Merci Thomas Debounia. J'ai dit ceci. Un arrêt cardio-respiratoire est une urgence vitale. Rappelez-vous l'histoire de Papa Wemba. Rappelez-vous l'histoire, c'est d'ailleurs ce qui a poussé Dr Benjamin Kabwe, que je salue en passant et dont nous félicitons l'initiative. Et vraiment, et il est allé même dans les écoles primaires, les écoles maternelles, pour apprendre même aux enfants, en cas d'arrêt cardio-respiratoire, Thomas, dès que vous vous rendez compte que quelqu'un ne respire pas, il suffit simplement de pousser votre oreille à côté de ses narines, vous sentirez s'il n'y a pas de bruit. Et vous regardez d'ailleurs l'ampliation de son thorax, surtout chez nous, les adultes, s'il respire ou s'il ne respire pas. Et dès que vous pouvez le toucher, vous touchez, généralement, les secouristes utilisent les grosses veines au niveau de carotides, au niveau du cou. Regardez les gestes là que les gens font souvent, même dans le film. Vous avez déjà vu. Quand quelqu'un est tombé, on vient le toucher du côté. Vous sentirez si son cœur bat et il ne bat pas. Dès qu'il a arrêté, les premières secondes, les premières minutes comptent. Vous commencez ce qu'on appelle la réanimation cardio-pulmonaire. C'est-à-dire, je veux masser ce cœur. Il suffit de l'avoir vu, vous n'allez pas l'avoir vu et qu'on vous montre, vous n'allez pas l'oublier. Vous massez ce cœur à raison de 30 cycle, vous pressez 30 fois et vous soufflez dans ses narines 2 fois. Et vous fermez les narines, vous pouvez me souffler dans la bouche. Soufflez et la première des choses, c'est de lever le menton pour dégager les voies respiratoires. Là, ce sont des techniques, comme l'a dit notre ami sécuriste de Kinshasa, Il faudra qu'on vous apprenne ça, que vous le voyez. Comment reconnaître, vous avez dit, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de saignement abondant? Thomas, il faut situer, les saignements abondants se situent à quel niveau? Quelqu'un qui saigne, il a reçu un couteau ou quelqu'un qui a voulu se trancher. J'ai vu les artères au niveau du bras. Donc, en amont de cela, mettez le garrot. Si c'est à la tête, comprimez, cherchez un mouchoir, au besoin repasser ce mouchoir-là. Un mouchoir propre, repasser, comprimer, faites une compression, prenez un autre mouchoir, repassez, faites un bandage compressif, quelqu'un qui saigne comme ça, vous aurez le temps de l'amener à l'hôpital. Et aussi, Thomas, quelqu'un qui a beaucoup saigné, il vous dit, le signe d'alerte, il vous dit, j'ai soif, ça signifie qu'il a beaucoup perdu. Ça signifie qu'il a beaucoup perdu. Vous lui donnez pas seulement de l'eau comme ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup perdu, il a perdu du sang. Comprimez et envoyez-le à l'hôpital. Si vous avez une boisson sucrée à lui donner, ça va. Mais comprimez, envoyez-le à l'hôpital. Les étapes pour le traitement des brûlures, je l'ai dit. Les brûlures simples, de l'eau chaude ou un enfant qui renverse une tasse de thé. Thomas, mettez cette main-là
ou
le thorax de cet enfant-là.
Il y a beaucoup de choses à dire. On ne peut pas tout terminer dans une émission aujourd'hui. Je pense que c'est à suivre. Dossier à suivre. On va revenir dessus prochainement. Merci beaucoup, docteur Anissé Kipasa, expert en santé publique, intervenant depuis Kikwit. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.